question, en particulier, on vient de parler de réseaux sociaux, tout le monde connaît son chapeau, je vous l'ai appelé, ainsi que son pseudo sur les réseaux sociaux neuromancien. Par ailleurs, donc, c'est un ancien documentaliste et puis un professeur documentaliste et il est depuis quelques temps maintenant maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'IUT Michel de Montaigne à Bordeaux. Il travaille plus précisément sur le domaine des humanités digitales. Il a écrit parmi un de ses derniers livres « Le temps des humanités digitales » aux éditions FIP. Sa communication, alors il y a petit gibet qui clignote, sera sur les maîtres d'armes de la culture numérique, en particulier donc, le rôle du professeur documentaliste dans ce domaine, et puis donc, il abordera une réflexion sur les nouveaux contenus à transmettre, en particulier aussi sur la question de l'enseignement du code, qui est une question dont on a entendu parler dernièrement. Alors, comme ce n'est pas une table ronde, je vais simplement laisser la place à Olivier et l'écouter dans l'assemblée.
Alors, j'espère que vous allez entendre un peu d'énergie, parce que les conférences depuis ce matin étaient extrêmement enrichissantes, mais extrêmement mobilisatrices en tant que cerveau disponible. Donc, je crains que vous n'en ayez plus beaucoup. En tout cas, moi, j'en ai plus, mais je vais quand même tenter de vous transmettre quelques réflexions, quelques concepts aussi, et puis on aura un petit peu de temps pour en discuter plus librement. Comme je crains que la tension retombe, j'ai un peu modifié aussi mon PowerPoint en conséquence, mais vous verrez pourquoi. J'aborde de suite le titre où j'évoque la notion de maîtrise. On a beaucoup parlé de maîtrise ce matin en disant que c'était une notion effectivement quelque peu dépassée, notamment lorsqu'on évoque la question de la maîtrise de l'information. La maîtrise que je vais développer aujourd'hui s'inscrit dans un cadre légèrement différent. On n'est plus dans le type de maîtrise, on va dire, absolue, telle qu'on a pu la concevoir dans les années 80 ou 90, où on formait à la maîtrise des bases de données, où il y avait quelques procédures à connaître, et a priori, on pouvait s'en sortir. La maîtrise que je vais présenter est bien plus complexe, et peut-être par un autre côté, moins ambitieuse, dans la mesure où il ne s'agit pas de maîtriser pleinement et totalement, ce qui, à mon sens, est devenu impossible. Première chose, on a beaucoup parlé de l'EMI et vous verrez que j'en ferai à plusieurs reprises une critique, sachant qu'à l'heure actuelle, à mon sens, on ne peut pas se contenter d'une alliance des littératies. Sachant qu'effectivement, on a pas mal progressé ces dernières années sur un terrain de convergence de formation entre tout ce qui est plutôt les éducations A, éducation à l'information, éducation aux médias, éducation à l'informatique, que ça a effectivement produit quelques résultats et que l'EMI pourrait paraître être la nouvelle incarnation de cette convergence et on pourrait croire qu'enfin, au bout de toutes ces années, il semblerait qu'un enseignement quelconque puisse se dégager. J'ai le sentiment à l'inverse que c'est plus complexe que ça, et que la voie dans laquelle on se dirige n'est pas forcément la voie gagnante, même si c'est celle qui est privilégiée effectivement par l'institution. À mon sens, il faut de plus en plus penser le contexte de complexité informationnelle, et ce contexte de complexité informationnelle s'étale sur les quatre types d'informations. Alors, vous en connaissez trois principalement, l'information de type news, qui à mon sens, alors je reviendrai tout à l'heure, c'est un peu problématique, mais devient un peu l'information dominante. L'information plutôt type savoir, knowledge, sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années en documentation. L'information type data, là j'y reviendrai un peu plus longuement, parce que cette information prend de l'essor et à mon avis devient de plus en plus urgent que les professeurs documentalistes s'en emparent également. Puis quatrième type d'information qu'on peut rajouter parce qu'elle est un peu hybride et qu'on a un peu de mal parfois à la saisir, c'est une information de type social, si vous voulez, qui émane en quelque sorte des réseaux sociaux et des pratiques qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. Donc ces quatre types d'informations, il faut parvenir en comprendre la complexité et pour aller un peu dans la lignée de ce que disait Alexandre tout à l'heure, une des pistes, quand on est vraiment trop un peu arc-bouté sur une actualité foisonnante qui ne cesse d'évoluer avec des nouveaux outils, c'est probablement de se pencher sur une stratégie qui consiste à se ramener dans une position davantage historique. Enfin, c'est la mienne, dès que j'arrive plus à voir une véritable ce qui peut être intéressant à faire en matière de réflexion, je me reporte immédiatement à l'histoire. Et vous allez voir que très souvent, l'histoire nous apporte tout un tas de réponses intéressantes et ça nous permet très souvent aussi de se projeter plus aisément dans les temps futurs. Ça signifie finalement qu'au-delà de cette EMI, il faut vraisemblablement aller au-delà des discours, en tout cas politiques ou journalistiques, qui comprennent, à mon sens, l'EMI de façon très réduite. Et dans cette réduction, c'est plutôt une vision qui est celle des médias actuels d'actualité, en gardant toujours la télévision, la radio et éventuellement la presse, mais en rajoutant les médias sociaux. Et puis l'information, c'est quand même une information plutôt de type news ou une information de type virale. Mais à mon sens, on ne va pas nécessairement au-delà. Et puis vous le savez aussi, en tout cas la lignée qui intéresse l'institution politique, c'est plutôt une éducation aux hypothétiques dangers des réseaux sociaux. Et le tout, évidemment, pour accompagner la récente loi de surveillance des citoyens français, qui aboutit d'ailleurs presque à un paradoxe, c'est qu'on est en train de mettre en place une éducation média à l'information au moment où les gouvernements, finalement, envoient un message de défiance assez fort aux citoyens. Et évidemment, ce n'est pas le contexte idéal pour réellement mettre en place une formation adéquate. Alors, une solution simple, mais on l'a déjà faite depuis hier, hein, c'est véritablement de rappeler la notion essentielle qui est celle de document, qui disparaît dans l'éducation aux médias et à l'information. En tout cas, la place du mot n'y est plus. Cette disparition du mot document et documentation, je l'ai vécu à plusieurs endroits, y compris sur la formation que je dirige, qui s'appelle information numérique dans les organisations. J'étais pas trop favorable à cette évolution qui faisait disparaître le mot document et documentation et j'ai tendance à dire que c'était une erreur. Le discours quand même de certains enseignants qui avaient participé à cette évolution, c'était de renvoyer une image que la documentation était devenue ringarde. Donc depuis, je me bats pour redémontrer que la documentation n'est absolument pas ringarde. Bien au contraire, que vraisemblablement, elle était en avance sur pas mal de points et qu'elle continue à l'être. Du coup, la technique, c'est plutôt de s'inscrire dans une lignée beaucoup plus longue. On a vu tout à l'heure qu'on est sur des formes un peu instables, des réseaux sociaux, Twitter qui a une crise économique, qui fait des licenciements, qui disparaîtra peut-être un jour, mais qui disparaîtra bien certainement. Donc du coup, il faut trouver des formes qui nous permettent d'englober l'ensemble de ces mouvements et qui nous permettent de nous inscrire dans un mouvement davantage long. Et une des pistes, évidemment, de revenir à toutes les thématiques autour du document et de la documentation. Du coup, je vais aborder assez brièvement deux concepts qui sont dans cette lignée du document et de la documentation. Le premier, c'est la documentalité. C'est un concept qui nous vient d'un philosophe italien qui a beaucoup travaillé avec Jacques Derrida et qui considère finalement que pratiquement l'essence même de l'humanité part des logiques de traces et d'inscriptions qui caractérisent l'ensemble des relations humaines et qui mettent en avant l'extrême importance du document. Donc du coup, sur cette théorie de la documentalité sur laquelle je reviendrai un petit peu, de Maurizio Ferraris, on s'aperçoit que le concept de document n'est pas du tout ringard. Et ce que démontre Ferraris, c'est qu'au contraire, ces artefacts de la documentalité, on en retrouve de plus en plus, y compris et notamment sur tous les espaces mobiles ou sur tous les éléments qu'a pu montrer tout à l'heure Elisabeth. On a de la documentalité. Donc ça, c'est un concept relativement récent. Hein. On va dire que ce concept, Maurizio Ferraris travaille dessus depuis 5-6 ans principalement. Autre concept qui paraît un peu plus moderne comme ça, celui d'hyperdocumentation, et pourtant il est très ancien puisqu'il date de 1934 et il vient de notre cher Paul Otley qui est lui quand même très très loin d'être un ringard et qui au contraire démontre l'acuité de la documentation, acuité et intérêt, qui a quand même suscité des financements et des soutiens au Modernium de la part de l'acteur principal de ces questions-là, qui est Google. Donc, sur cette documentalité, je vous mets une citation, mais qui ne vous éclairera pas nécessairement de Maurizio, mais c'est simplement pour lui le fait de l'importance du document, parce qu'il matérialise une trace, et cette trace, c'est en fait la preuve d'une inscription, d'une intention, d'une relation. Et s'il n'y a pas de document, il n'y a pas véritablement de transmission, il n'y a pas de preuve. Et l'essence même, finalement, des activités humaines et de la culture humaine passe par des logiques documentaires. Et d'où l'intérêt de cette fameuse documentalité. Je signale aussi qu'il y a pas mal de travaux anglo-saxons qui replacent la question des documents comme étant essentielle, notamment en repartant de l'explosion documentaire qui a eu lieu sur l'accroissement des organisations privées comme publiques, notamment au XXe siècle. Et finalement, ces artefacts de la documentalité, cette production documentaire qui certes se complexifie, qui se transforme, n'a de cesse de se complexifier. Et ce que démontre souvent Maurizio Ferrari, c'est que ce sont aussi des instruments de pouvoir. C'est sur lequel je vais un petit peu revenir aujourd'hui. Donc l'autre concept, c'est celui d'hyperdocumentation. Alors Paul Otley, en fait, a entrevu un développement de la documentation bien au-delà de la matérialité de l'imprimé. Il a prévu tout un tas de stades et avec une évolution qu'on arrive à peu près à percevoir avec... Départ plutôt des temps de réflexion, puis une matérialisation à partir du document. Avec le fait aussi, sur un quatrième stade, qu'on a une découverte du monde qui passe par le biais documentaire. C'est face que du Bruno Latour avant l'heure, d'ailleurs. Cinquième stade, vous voyez, et c'est tombe vraiment bien, parce que je ne savais pas comment j'allais m'en sortir avec cette histoire de document-instrument, mais Elisabeth a déjà fait le boulot. Il est là. Donc, en fait, Paul Otley, il a déjà fait du Rabardel avant l'heure aussi. Ça, c'est le cinquième stade. Mais on voit bien qu'on y est déjà au cinquième stade. Mais Paul Otley, il va beaucoup plus loin et il envisage un sixième stade. C'est là qu'il est réellement visionnaire quand on lit ce sixième stade. C'est qu'il imagine, en fait, que l'ensemble de nos activités humaines et l'ensemble des éléments qui mobilisent tous nos sens vont glisser peu à peu dans une sphère documentaire, une transformation totale. Si on regarde bien aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec le numérique, il y a une tentation de vouloir que la moindre de nos activités, nos faits et gestes, soit quasiment numérisée. En tout cas, il y a un prolongement numérique. Et on est en train de rentrer finalement dans ce stade de l'hyperdocumentation, et finalement, Paul Otley l'avait déjà décrit en 1934, et c'est à mon sens pour ça que d'ailleurs Google va à nouveau se pencher certainement sur la question de Paul Otley. Simplement, on voit qu'aujourd'hui, on n'est pas encore totalement sur le stade ultime de l'hyperdocumentation. Je ne sais pas si Paul Otley le percevait de manière uniquement positive ou pas, on ne le sait pas réellement, parce qu'il y a un côté presque inquiétant sur cette description de l'hyperdocumentation, que le moindre de nos sens puisse rentrer dans une logique documentaire. Mais en tout cas, on y va peu à peu et ça démontre bien une nouvelle fois que le concept de document est toujours présent et qu'il est toujours utile. Donc du coup, si on cherche un peu de stabilité dans l'instabilité, la documentation sous son biais hyper-documentation peut nous aider. Je vous avais dit que je captais l'attention un peu. Alors l'avantage effectivement sur cette hyperdocumentation, on voit que c'est très très large et on recouvre vraiment tous les champs abordée dans les séances pédagogiques que nous a évoqué Pascal ce matin, finalement. C'est de l'hyperdocumentation. Et on a déjà des premiers maîtres de l'hyperdocumentation. Donc ça, c'est formidable. Ça fait le prolongement. Bon, on a aussi des maîtresses dans les grands pays. Donc l'hyperdocumentation, on est déjà dedans et vous êtes déjà, pour certains d'entre vous, des maîtres ou maîtresses de l'hyperdocumentation en devenir ou en formation. La bonne nouvelle, elle est là. La bonne nouvelle aussi, ça signifie que si on s'inscrit dans une lignée longue, on peut toujours se rattacher à des concepts un peu plus anciens, un peu plus stables, qu'on a vu se construire. Et l'historicité d'ailleurs de la construction et de l'évolution d'une notion est plutôt un point fort. Alors ça, c'est pour répondre à ce que disait Alexandre, c'est vrai que si on s'amuse à didactiser Twitter, parfois on va se retrouver en pratique ou en usage avec des adolescents qui ont des usages plus développés. Par contre, si on s'inscrit dans une logique davantage durable d'évolution des médias, ils ne vont pas avoir le même vécu et le même background, et là, vous allez avoir une expertise, une connaissance supérieure à l'élève. C'est là qu'on pourra avoir une transmission, évidemment, intéressante et qui dépassera l'ensemble des défauts démontré tout à l'heure par Elisabeth. Et là, voilà pourquoi j'insiste pas mal sur cette nécessité de s'inscrire sur une évolution historique. Alors, on arrive sur la question, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça sur ce dispositif qui est l'EMI. Alors, ce matin, je me suis amusé à taper EMI, du coup, sur Google suite aux essais de cartographie et j'ai fait une découverte un peu tragique. C'est celle-là. Et du coup, je me suis interrogé. Généralement, il n'y a pas vraiment d'hasard. Et effectivement, au départ, EMI, c'est expérience de mort imminente. Alors, j'ai presque envie de dire l'hyperdocumentation pour l'athlète. Vous voyez quand même que c'est du long terme. L'EMI, qui doute. Bon, je vous ai mis une photo d'un inspecteur général pour vous comprendre. Mais voilà le souci. Donc, méfiance. Y a-t-il un risque émis? À mon sens, oui. Oui, parce que on retombe sur la perception assez classique de la confusion de la notion d'information, notion polysémique, et qui fait que lorsque vous adressez à telle ou telle personne, elle va la percevoir de manière totalement différente. Néanmoins, il y a une dominante assez nette, c'est de considérer que cette information est plutôt de type news. Ce que j'ai tendance à dire aussi, c'est que le fait de l'accoler avec médias, et en mettant médias devant, tend à accroître l'idée qu'il y aura une domination de l'éducation aux médias sur l'information documentation, et tend à réduire la portée du mot information sur l'information de type news dans EMI. On voit néanmoins, sur ce qu'on a vu un peu sur les séquences pédagogiques, que ce n'est pas forcément tout le cas chez les professeurs documentalistes, mais j'ai le sentiment sur les discours institutionnels et politiques qu'il y a quand même une réduction assez forte de ce type. Du coup, ça a conduit quand même à un risque qui est une formation court-termiste, basée principalement sur l'usage des médias et quelque peu des nouveaux médias, avec des logiques assez simples qui sont celles des mises en garde. Donc, ça vous les connaissez, le bon usage et le mauvais usage de Facebook, éventuellement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur Twitter, et ensuite, quels sont les sites qui sont potentiellement dangereux, pourquoi ils sont dangereux, pourquoi il ne faut pas y aller. Et parce que ça rejoint aussi le discours institutionnel qui consiste non pas effectivement à produire, à inciter, à former des citoyens éclairés, mais plutôt à former des citoyens qui pensent convenablement et qui ne vont pas aller sur les sites incriminés. Le danger, d'autant plus, c'est qu'on va se confronter à un public adolescent qui, si vous le dites au public adolescent, il ne faut pas aller sur ce type de site parce que c'est pas bien. Et en plus, vous rajoutez, en plus, si tu y vas, tu risques d'être repéré, tu vas avoir des problèmes. N'importe quel ado, il est super tenté, il va y aller. Donc au final, le risque, bah, c'est d'aboutir à un résultat totalement inverse à ce que voulait initialement l'institution. Et ensuite, on va être sur des logiques un peu préformatées. Parce que c'est quand même ça hein, qui est revenu assez fortement au CLEMI depuis janvier, c'est comment éviter que les adolescents aillent sur des sites conspirationnistes, des sites voilà, qui sont potentiellement dangereux. Et c'est ce que je crains énormément, en tout cas, avec le risque CLEMI. Et à mon sens, je ne suis pas persuadé que les politiques aient totalement perçu les aspects à long terme que, sur lesquels nous travaillons plus longtemps. Du coup, moi je suis plutôt pour privilégier une vision longue, mais ça vous l'avez bien compris, et cette vision longue c'est aussi en travaillant davantage les aspects un peu médiologiques, c'est-à-dire les différentes manières de concevoir les médias, les différentes manières dont les médias influent sur nos représentations et nos manières de faire, donc la logique type médiologique impulsé par Régis Debray et puis dans la lignée de Marshall McLuhan, en quoi les médias finalement forment ou déforment les esprits et comment on peut réellement tirer le bénéfice de la formation avec ces dispositifs. C'est aussi un moyen d'introduire une notion qui est pour l'instant un peu en marge sur le territoire français mais qui commence à émerger au niveau recherche, c'est le terme d'archéologie des médias. L'archéologie des médias, c'est en fait un domaine qui étudie l'évolution des médias au fil du temps, qui essaye de percevoir des filiations, qui reprend un peu l'histoire du début des médias, notamment du cinéma. Et ceux qui étudient le cinéma démontrent qu'au départ, le cinéma était peut-être beaucoup plus interactif qu'on ne le croit, parce qu'il mobilisait d'autres sens que ceux de la vue et puis ceux de l'ouïe, par exemple. Et qu'il y avait pas mal d'autres choses qui étaient mobilisés, et que vraisemblablement l'avenir du cinéma va être sur une mobilisation plus grande de l'ensemble des sens. On revient encore dans l'hyperdocumentation. L'avantage aussi de l'archéologie des médias, c'est que ça permet de transmettre un message sur la question de la pérennité des médias que sont en train d'utiliser les adolescents, en leur montrant qu'il y a une durabilité assez faible. Et en matière de pédagogie, il y a plein de choses qu'on peut faire assez aisément en reprenant d'anciens supports des années 80, 90 qui sont aujourd'hui totalement désuets et en demandant simplement aux élèves, d'après vous, à quoi ça servait. Tout à fait type de choses qui peuvent se faire. On peut très bien imaginer aussi une sorte de rallye type Indiana Jones, mais en archéologie des médias. Pédagogiquement, il y a vraiment pas mal de choses à creuser. L'intérêt, c'est de montrer qu'avant la convergence numérique du web, il y avait d'anciens médias qui sont en train de se retrouver dans le web, mais qui produisent encore des effets. D'où le vocable d'architecte évoqué précédemment. C'est assez utile, à mon sens, de démontrer cette historicité aux élèves qui parfois ne la perçoivent pas, et en tout cas n'ont pas cette historique-là. Et perdre des clés très souvent en matière d'évaluation de l'information. Et perdre aussi des clés sur des éléments de pérennité des données, de conservation des données, parce qu'on a déjà un petit peu de vécu. Et ça leur permettrait aussi de relativiser le côté clinquant ou le côté totalement in de la chose en leur démontrant peut-être que dans 3, 4, 5 ans, l'objet média ou multimédia qu'ils désirent absolument sera vraisemblablement ringardisé. Donc il y a plus de chances que soit ringardisé effectivement certains réseaux sociaux ou certains sites que ne le soit la documentation d'ici 5-10 ans. Ça permet aussi de dépasser, mais ça on l'a déjà fait depuis hier, la vision uniquement basée sur des usages simplistes des outils et des logiciels pour aller sur des pratiques un peu plus avancées et sur des pratiques davantage réflexives. Autre aspect aussi sur lequel on peut mettre en avant cette question de la documentation. Alors on a évoqué tout à l'heure le fait qu'effectivement ce qu'il faut former à ces outils, ce qu'il faut former à Facebook, oui, mais vraisemblablement en employant d'autres concepts. À mon sens, il y a un intérêt de s'emparer de ces outils dans la formation, parce que si on ne le fait pas, c'est quand même les industries du marketing qui vont former ou déformer à ces usages d'une façon directe ou indirecte. sachant qu'une des logiques actuelles en matière de formation, mais qui émane plutôt des consultants, néanmoins ça arrive parfois dans nos universités, c'est la théorie du personal branding, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'individu est une marque et qu'il doit se gérer comme une marque sur les réseaux sociaux. On a été plusieurs à s'inscrire en faux contre cette vision absolument terrible, parce que si vous imaginez que vous êtes une marque, bah, les marques, généralement, elles finissent aussi par disparaître, et où elles finissent par être passées de mode. Et si vous êtes coté en bourse, vous pouvez avoir des cracks. Si on rentre dans cette logique-là pour les individus, c'est à mon sens extrêmement inquiétant, puis c'est aussi court-termiste. Donc le mieux, à mon sens, c'est plutôt d'évoquer le concept de documentation de soi, qui nous permet de nous placer sur un long terme, qui va nous permettre d'utiliser effectivement Facebook ou Twitter, mais en se disant que de toute manière, il y aura d'autres produits qui viendront par la suite. Par contre, si on est dans une logique de formation long-termiste, le concept de documentation de soi, dans 10-20 ans, il sera encore opérationnel. Ça permet aussi d'être dans une logique qui casse la logique de l'ego. On est plutôt sur le culte du moi. Et très souvent, finalement, les réseaux de ce type vont vous inciter à créer énormément de liens et puis à essayer de gagner de la notoriété en peu de temps. Notoriété pas forcément utile parce qu'en fait, ça revient à des formes de gonflage ou de dopage numérique qui n'ont pas grand sens, et en tout cas qui n'ont pas grand sens à long terme, en termes de construction. Donc, il vaut mieux parler de culture de soi que de culte du moi. Même si, justement, les industries de services vont être davantage dans ces logiques-là. On l'a vu tout à l'heure, hein, sur les incitations à commenter, le fait que chaque billet va recevoir un nombre de commentaires qui va être quantifié, le fait que peut-être que tel commentateur, lui aussi, va être dans une logique un peu type gamification, on va lui donner des points parce qu'il a commenté, mais au final, à long terme, la portée n'est pas nécessairement très utile. Bon, là-dessus aussi, c'est quelque chose qui est assez difficile probablement à faire comprendre à nos partenaires institutionnels politiques, parce que justement, ils ont depuis très longtemps choisi le culte du moi par rapport à la culture du soi. Alors, du coup, évidemment, vous comprenez mieux le terme de maîtrise ici. Hein. Le terme de maîtrise, c'est plutôt une maîtrise relative du soi, maîtrise du soi, c'est-à-dire sa propre identité, sa propre construction, sa propre individuation. Et donc on est plutôt du côté du qualitatif par rapport à une logique qui serait uniquement quantitative. Ça ne signifie pas qu'on ne va pas être parfois dans des logiques quantitatives, et ça vous le voyez bien, il y a de plus en plus de dispositifs qui calculent le moindre de nos faits aux gestes, hein, et vous avez tous des amis qui vous font part avec fierté non dissimulée de leur dernière performance lors de leur footing de la matinée. Bon, est-ce que c'est du culte du moi ou de la culture de soi? Je vous laisse deviner. Donc il y a une tendance à vouloir absolument tout quantifier. Dans le phénomène de quantification de soi qui s'est développé depuis quelques années est vraiment en essor. Parfois, en termes de santé, ça peut être utile, mais ça vous fait rentrer dans une schizophrénie absolument insensée et aussi absolument inquiétante, effectivement, parce que ça fait une production de données personnelles totalement inutile, qui restera à analyser, qui sera vraisemblablement analysé par d'autres acteurs que la personne elle-même. D'où cette question, effectivement, de la maîtrise face aux nouvelles maîtrises. Et les nouvelles maîtrises, elles se développent évidemment très très rapidement depuis quelques années avec ces logiques de quantification de soi, de données personnelles qui se complexifient, mais qu'on met à disposition de manière volontaire ou involontaire de plus en plus fréquemment. Ces données sont ensuite collectées, compilées, additionnées. Très souvent, les systèmes de maîtrise additionnent beaucoup. On a un petit peu de chance aussi, c'est que très souvent, ils ont tendance à additionner des choux et des carottes, dans la mesure où ce qu'ils aiment, c'est plutôt additionner des likes, des plus, mais finalement, le côté sémantique derrière n'est pas nécessairement ultra analysé parfois. Derrière, vous le savez aussi, le but c'est de prédire des comportements et prédire évidemment avec le plus de succès possible. Bon. On prétend en tout cas qu'Amazon aurait déjà des commandes semi-préparées et saurait d'avance ce qu'on va acheter dans les mois prochains. Peut-être. En tout cas, c'est un de leurs idéaux. Mais vous voyez, du côté des métriques, on est plutôt dans le profilage, ce que j'appelle l'indexation des existences. Tandis que nous, on est plutôt issus d'un courant qui est celui de l'indexation des connaissances. Néanmoins, c'est malheureusement, en termes de moyens, l'indexation des existences, qui utilise parfois des techniques de l'indexation des connaissances, mais qui aujourd'hui a le plus de moyens financiers et le plus de moyens d'agir. Tandis que nous, on est encore en train d'essayer de justifier l'intérêt d'une formation sur nos questions. Pendant ce temps-là, les acteurs privés avancent tranquillement et sans se poser de questions. Cette logique aboutit à des formes de négation. Et les formes de négation, c'est la négation un peu des capacités d'analyse. Alors, ça se mesure assez fréquemment au quotidien, où finalement, on est incité plutôt à liker très rapidement sans grande réflexion. Ce qui explique pourquoi j'avais parlé d'une dégradation de l'indexation qui est un passage qui était celui du tag au like, qui est finalement le passage du doigt qui est l'index au pouce, qui est quand même plutôt le symbole un peu de l'enfance. Mais c'est le but, c'est-à-dire que finalement on ne réfléchit pas et on donne une donnée. Finalement, plus on like, plus on est en train de s'indexer soi-même au profit de tiers industriels. Ces logiques-là vont encore plus loin, y compris en termes scientifiques. Aujourd'hui, dans l'idéal de certains acteurs, et on le sait, c'est un peu le discours de certains ingénieurs chez Google, c'est que si on capte un maximum de données, le tout en temps réel, et que si on a préparé auparavant quelques algorithmes de prédictibilité, on est capable d'analyser en temps réel ce qui se produit, et finalement on n'a plus besoin de science. Parce que les modèles sont déjà construits, et le but c'est d'avoir les données en temps réel. D'où le discours de la fin de la science qui a été tenu il y a quelques années par Chris Anderson, qui a bien provoqué, mais qui s'appuyait quand même sur une opinion quelque peu partagée. En tout cas, cette fin de la science, c'est la fin de l'analyse. Et si c'est la fin de l'analyse, c'est surtout la fin aussi d'ensemble des sciences, mais en tout cas des sciences humaines et sociales. Alors, ça peut vous paraître aberrant, mais quand on voit certains comportements de politique japonais, ou avec une menace sérieuse sur les universités en sciences humaines et sociales, on se dit que ces questions-là ne sont pas, malheureusement, de la science-fiction. Ce qui se produit aussi, c'est une montée croissante de l'automatisation, notamment dans les secteurs qui étaient jusque-là épargnés, c'est-à-dire les secteurs tertiaires. Ça a amené Werner Stiegler à sortir un ouvrage assez récent qui s'appelle « Sur l'automatisation ». Et ça pose pas mal de questions derrière, effectivement, sur quels vont être l'avenir des professions, notamment des professions que vont exercer nos futurs élèves et étudiants. Et ça pose aussi la question de c'est quoi le travail au final. Cette automatisation, vous pouvez déjà la vivre d'ailleurs vous-même au quotidien, vous avez pas mal d'outils assez pratiques en termes d'automatisation informationnelle, comme If to Zapier, où vous pouvez automatiser tout un tas de tâches. Si vous allez voir d'ailleurs la société Zapier, vous avez un document d'une centaine de pages, et en gros, il vous démontre que vous pouvez automatiser un grand nombre de tâches sur le cycle informationnel et communicationnel. Si vous gérez bien, ça signifie que derrière, il y a vraisemblablement des postes dont vous allez pouvoir vous passer. Donc c'est aussi ce contexte-là qui est en train de se produire, et donc il faut actuellement bien mesurer les conséquences, et savoir quel remède on va pouvoir apporter, parce que cette automatisation, on n'y échappera pas. Derrière, il y a tout un tas de modèles. Ces modèles, ce sont ceux, généralement, des algorithmes. Ce que je vais vous dire, c'est que les algorithmes sont plutôt issus traditionnellement de la sphère mathématique puis de la sphère informatique. Dorénavant, il faut considérer que l'algorithme fait partie des savoirs auxquels doit s'intéresser le professeur documentaliste et les sciences de l'information et de la communication. Parce que les algorithmes sont en fait des recettes. Donc quand vous faites de la cuisine, vous faites déjà des algorithmes. Et ces recettes, bah, elles sont quand même faites par des humains, même si dans leur discours, parfois, ils ont tendance à dire qu'il y a une forme d'intelligence artificielle qui transforme l'algorithme, mais en tout cas, il y a des modèles prédictifs, des dosages qui sont faits, ou des éléments qui sont des indices. Et finalement, si on parle d'indices et d'indicateurs, on revient bien sur des territoires qui ne sont pas si éloignés que ça, que de l'indexation et des catégorisations. Donc, à mon sens, il faut s'emparer de cette question de l'algorithme, sachant que derrière, les discours tendent à nous faire croire que les algorithmes seraient quasi naturels. Donc, il y aurait une naturalisation de ces modélisations, et si c'est naturel, vous savez, vous n'avez pas votre mot à dire, parce que si c'est naturel, c'est que c'est évident. Et il y a cette tendance-là assez forte actuellement, notamment avec les discours sur le big data et l'open data, où on a l'impression que si on met un maximum de données en ligne, on va produire des analyses plus performantes et qu'on sera plus intelligent et plus efficace. Ce qui sera parfois le cas, mais à mon sens, ça ne sera pas si aisé que ça. Donc une des pistes, c'est effectivement didactiser l'algorithme. La notion d'algorithme, là, elle est relativement stable, hein, c'est une notion qui est assez ancienne, mais plutôt sous un angle info-documentaire. Ce qui n'est pas inintéressant non plus, c'est que finalement, les lycéens qui apprennent l'algorithme en cours de mathématiques vont peut-être enfin pouvoir mesurer à quoi ça sert. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelque part, cette notion d'algorithme permet de nous replacer sur une lignée qui est celle de l'indexation et des indicateurs. Et on pourrait très bien s'amuser à faire des comparaisons entre c'est quoi l'indice D-Way et c'est quoi l'indice Cloud. L'indice Cloud, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un indice de popularité sur le web qui concerne les individus et qui vous note de 1 jusqu'à 100. Donc en gros, si vous êtes entre 20 et 30, ce n'est pas terrible. Et ensuite, si vous dépassez les 50, 60, 70, vous êtes plutôt des experts. Il y a des algorithmes derrière qui ne sont pas des algorithmes scientifiques, hein, c'est vraiment de la cuisine. Et c'est totalement discutable. Mais en tout cas, quand l'indice Clout était sorti, il y a eu aux États-Unis les premières soirées Clout. Si vous aviez un indice en dessous de 60, vous ne rentriez pas. Mais vous voyez que le déplacement, il est là, entre l'indexation des connaissances, indice D-Way, indexation des existences avec une quantification derrière. Des indices type Clout. Alors ça signifie qu'effectivement, par rapport à cette extension des métriques, on a un besoin d'accroître notre sphère et notre degré de maîtrise. Maîtrise qui ne peut pas être absolue, parce qu'on a bien compris que sur l'ensemble de ces territoires, on ne pourra pas tout maîtriser, ce ne sont pas des territoires clos, ce sont des territoires qui reposent essentiellement sur le web. Donc la maîtrise est plutôt relative. Néanmoins, ça requiert vraisemblablement des enseignements, et des enseignements davantage durables, de façon à ce qu'on se transmette comme notion, comme réflexe, comme réflexion, puisse être éventuellement réadapté, réutilisé au quotidien, mais aussi quelques années plus tard. Donc on rentre dans une logique qui est celle de la translittératie, et l'idée de maîtriser des aspects d'écriture, de lecture, d'analyse sur différents types de supports, mais finalement à différents moments de notre existence. Alors quelque part, sur l'extension des maîtrises, il y a presque une extension des littératies, et depuis quelques années, nos collègues américains évoquent la question des data literacy. Est-ce qu'il faut maîtriser les données ? Là aussi, il y a plusieurs visions derrière. Si vous prenez une vision informatique, ils vont vous dire qu'il faut effectivement apprendre davantage à coder. Le seul souci, c'est qu'il existe tout un tas de langages informatiques et qu'on ne sait pas forcément pertinemment auxquels il faudrait davantage former. La piste que j'évoque à chaque fois, plutôt que d'apprendre à coder, en tout cas, il faut apprendre à décoder. Et c'est plutôt notre position. Alors, sur cette data literacy, il faut aussi s'interroger sur le terme français « données ». Il n'est pas forcément très clair et en fait, il n'y a jamais rien qui est donné, ou qui est donné véritablement consciemment. Et ce qui est pour ça que d'ailleurs Bruno Latour parle très souvent plutôt d'obtenu que de donné. Et en tout cas, ça devrait poser la question de ce qu'on veut véritablement donner. Et on devrait en tout cas avoir des démarches qui nous incitent à savoir si on veut véritablement donner tel type d'information à tel ou tel moment. Donc on voit que cette data literacy ne peut résider uniquement que sur des aspects de formation, mais qu'elle doit avoir des prolongements en termes pratiquement législatifs. Quelque part, il y a une sorte de couplage aussi entre la question de l'attention et la question de la donnée. Or, le principe des industries, c'est plutôt essayer de court-circuiter l'attention, qu'on ne réfléchisse pas et qu'on balance très très rapidement des informations personnelles sans réfléchir. Là, une nouvelle fois, il y a bien un couplage entre les deux, c'est notre capacité à réfléchir et à prendre une décision et à savoir véritablement, après une analyse, et moi que j'appelle une analyse documentaire, puisque le but n'est plus ni moins d'analyser un dispositif dans lequel finalement on a des formes documentaires et on décide si on veut donner telle ou telle information. Logique du don contre don, parce qu'évidemment, derrière ces aspects, on est sur des territoires qui sont issus du phénomène Web 2, où la plupart du temps, on a des services qui sont gratuits. Et vous savez maintenant que le discours, quand on a un service gratuit, c'est que c'est nous le produit. C'est ça, la logique du don contre don, bah c'est là où il faut savoir, effectivement, si on accepte de donner tel ou tel type d'information en échange de tel ou tel service, mais de façon consciente. Les logiques Big Data, Open Data que j'ai critiquées tout à l'heure sont aussi néanmoins intéressantes en termes de citoyenneté parce qu'il y a de l'information disponible, mais cette information disponible, finalement, c'est à l'ensemble des citoyens ou au collectif de citoyens de pouvoir s'en emparer et de pouvoir en tirer certains types d'informations et pas seulement à un nombre restreint de spécialistes. Donc il y a aussi cette question-là. Il y a de plus en plus de corpus de données qui sont mis à disposition, avec des tableaux Excel, mais ce n'est pas forcément ultra complexe à appréhender avec un groupe de lycéens. Il y a quelques expériences qui sont menées à la matière. Et là aussi, c'est de l'analyse documentaire, parce que vous allez repérer dans les tableaux Excel des catégories avec des chiffres. C'est des choses relativement classiques, mais auxquelles il faut former, sans quoi on va rester sur une logique essentiellement algorithmique ou qui va concerner qu'un certain nombre de sites ou de professionnels ou d'experts. Savoir décoder, je l'ai déjà dit. Allez, j'avance parce que vous êtes un peu fatigué. Donc la question, évidemment, c'est de former les nouveaux maîtres à ces différents aspects, à cette nouvelle complexité. Et finalement, ces nouveaux maîtres, c'est des nouveaux maîtres de l'index, de l'indexation. L'hyperdocumentation qu'on évoquait tout à l'heure, c'est une réflexion, une théorisation de Paul Hotley. Et Paul Hotley, finalement, on a surnommé le projet du Mundaneum, ou le Google de papier, c'est bien une idée d'avoir tenté de créer un index de l'ensemble de tous les savoirs disponibles. Et ce qu'a fait Google avec le web, c'est une entreprise à peu près du même type. Donc cette logique de l'index qui se complexifie, elle demeure toujours et le but pour vous, c'est d'être des maîtres de l'index. Ça signifie qu'il faut comprendre un peu cette histoire d'indexation depuis ses débuts jusqu'à ses transformations actuelles et donc se replacer dans cette histoire ambiguë et hybride entre indexation des existences et indexation des connaissances. Je rappelle aussi que sur cette histoire, si vous reprenez l'histoire d'hypertexte, la petite main que vous utilisez au quotidien, vous la retrouvez déjà dans les manuscrits médiévaux, ça s'appelle une manicule, et ça désigne le passage qu'il fallait lire. Ça nous replace aussi dans une dimension historique et à long terme qui me paraît essentielle, alors qu'on est très souvent placé dans des logiques vraiment à court terme. Alors ça me permet en même temps de glisser aussi une remarque sur les humanités digitales, parce que les humanités digitales, en tout cas, un de mes intérêts, c'est de démontrer que c'est une construction qui existe déjà depuis bien plus longtemps, que ça existe véritablement, vraisemblablement, avant même l'informatique, et que le début des humanités digitales commence justement avec les premières productions d'index. Quelque part, ça signifie qu'on est dans une opposition, mais pas forcément stricte, entre une raison digitale face à une raison computationnelle. La raison computationnelle, c'est plutôt la logique du ratio, c'est-à-dire que tout serait calculable, et tout serait calculable, évidemment, quasiment en temps réel avec des modèles prédictifs. Tandis que la raison digitale, c'est plutôt une capacité à également faire preuve de son entendement. Ce qu'on avait commencé à amorcer tout à l'heure avec Elisabeth, c'est qu'effectivement, c'est dépasser l'outil, dépasser les usages simplistes et être capable finalement d'accéder à une forme de majorité à la fois technique au sens de Gilbert Simondon et à la fois citoyenne et philosophique au sens d'Emmanuel Kant. C'est une raison plutôt équilibrée et pas seulement une raison calculatoire. Du coup, et j'arrive presque au bout, ça implique vraisemblablement une refondation disciplinaire qui serait plutôt basée effectivement sur l'idée d'une maîtrise de soi, c'est-à-dire une discipline de soi. Vous voyez où j'en viens au niveau maîtrise. Hein. Cette maîtrise, elle est placée sur cette discipline de soi. Et sachant que le numérique est en train de toucher l'ensemble de nos sens, on comprend bien aussi que le terme de discipline, c'est aussi la capacité à discipliner son corps. La logique que j'évoque, c'est celle de la scolée, que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises. La scolée, je rappelle que c'est ce qui a donné étymologiquement le mot école. Et la scolée, c'est ce qui désigne la capacité d'attention, c'est-à-dire la capacité à se concentrer durablement sur un objet, notamment pour étudier. Je dis aussi depuis un grand nombre d'années, si on veut refonder l'école, on devrait commencer par refonder l'école via la scolée. Ça signifie aussi que ce qui est plus important, c'est d'ailleurs croissamment la scolée plutôt que l'institution scolaire, parce que les formes scolaires, c'est ce qu'a un peu montré tout à l'heure Elisabeth, se prolongent au-delà de l'institution. Et j'ai envie de dire, heureusement, qu'on apprend en dehors de l'institution et qu'on va continuer à le faire. Simplement, il nous faut travailler davantage la relation entre institution et hors institution de façon à ce qu'on puisse justement réussir à parvenir à passer outre les aspects d'inégalité qui demeurent et qu'a très bien montré Elisabeth tout à l'heure. Autre aspect disciplinaire, c'est que ça nous oblige à repenser l'institution face aux industries de service qui deviennent de nouvelles industries disciplinaires parce que elles induisent des usages, elles induisent aussi des grammaires, c'est-à-dire qu'elles nous forment. Ce qu'a montré Elisabeth, derrière, il y a des usages, il y a des manières de faire qui sont souvent assez virales, on reproduit un peu ce que fait le camarade, donc il y a une sorte de grammatisation, il y a une forme de discipline de nos actes et de manières de faire, et il faut repositionner l'institution scolaire là-dessus. Et peut-être petit point de désaccord avec Elisabeth, finalement, moi, l'idée de l'exercice scolaire qui se déroule en dehors de l'institution, j'ai presque envie de plaider pour. Pourquoi ? Parce que si on ne plaide pas pour l'exercice scolaire en dehors de l'institution, il y aura une autre forme d'exercice qui sera exercée par des industries de service qui, elles, ne s'embarrasseront pas d'embarquer tous leurs concepts et toutes leurs déformations possibles et imaginables. Donc, autant assumer, moi j'assume pleinement le fait qu'il faut n'importe, qu'on exporte nos exercices scolaires en dehors de l'institution. Sans quoi on n'arrivera jamais à former des citoyens et on échouera, à mon avis, assez lamentablement. Alors évidemment, j'ai plaidé pour le temps long. Ça signifie derrière qu'il faut une formation qui s'exerce sur des temps longs, avec des progressions, évidemment avec des heures dédiées, avec un peu d'ambition, et qu'on ne soit pas sur un court-termisme de conformité, mais qu'on soit véritablement sur une construction citoyen éclairée. Bon, je crois que j'y crois encore, mais j'en suis plus si certain, mais en tout cas, ce serait ça l'objectif. Quelque part, effectivement, c'est l'opposition entre ces nouveaux maîtres que vous allez devenir ou que vous êtes en train de devenir, et ces maîtres qui veulent tout mesurer de toutes nos actions. Le but pour vous, c'est vraiment de replacer l'ensemble de ces questions sur une durée longue, qui mêle généralement passé et capacité à se projeter dans les temps futurs, même si c'est jamais très facile pour le public adolescent, parce que le public adolescent, il a une vision très court-termiste. Et vous le savez, même si vous leur dites parfois telle information que tu mets, ça peut te nuire d'ici 4 ou 5 ans, généralement, l'adolescent s'en fout un peu parce que ce qui l'intéresse, c'est l'effet à court terme. Néanmoins, ça a quand même quelque peu évolué depuis quelques années. Bon, je vous l'ai dit, c'est impossible, on n'est plus dans la maîtrise de l'information, on est sur une maîtrise beaucoup plus relative, mais on voit néanmoins que presque le programme disciplinaire qui est derrière est beaucoup plus ambitieux qu'à l'époque de la maîtrise de l'information. Ce qui est presque paradoxal. Donc, pour finir, effectivement, pour que vous puissiez, avant de vous y remettre, parce que je vous ai donné des travaux à faire, vous en avez de l'exercice scolaire, une petite publicité pour ce Tumblr que vous connaissez certainement, qui s'appelle « Va te faire coter ». J'ai piqué deux images qui ont dû sortir dans les dernières 48 heures. Voilà. C'est que quelque part, il nous reste encore dans ces logiques de maîtrise, vraisemblablement, même si au final, on échouera peut-être, on aura, du moment qu'on garde notre sens de l'humour et notre capacité à s'extraire de ce maelstrom, peut-être quand même gagner quelque part. Je vous remercie.